Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné sous sa forme Extra Ball, notre petite sortie de route raccourcie mais savoureuse tout de même qui nous permet de prendre le temps d'aborder une sortie au ciné ou en Blu-ray comme on va le faire là tout de suite en causant de Détective D 3 avec mes camarades Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
CénoCiné Extra Ball spécial Détective D 3 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Oui, c'est pas facile à dire. Détective dit 3.
Détective dit 3.
Ah, c'est ça, chinois. Ça. Ouais, ah, peut-être. C'est peut-être ça le problème. La légende des rois célestes, c'est son nom officiel, en tout cas en VF. C'est donc évidemment signé Tsuyark. Ça nous emmène sur les traces du fameux détective dit lancé à la poursuite d'une mystérieuse bande de tueurs masqués qui menace l'Empire. On n'en avait pas causé à sa sortie cet été. C'était au mois d'août. Donc on le rattrape pour sa parution en Blu-ray. Ce sera chez M6 Vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Et l'Arabia. L'Arabia, c'est M6 qui distribue, je crois, et c'est l'Arabia qui édite. Non, mais il faut le dire parce que l'Arabia fait un gros travail éditorial. Et là, en l'occurrence, en plus du film.
Ils avaient fait Memories of Murder, si je me rappelle bien.
C'est ça, exactement. On en avait déjà parlé dans un de nos ciné ensemble. Et en plus, là, il faut aussi le signaler, il y a une interview exclusive. Ils sont allés faire une interview exclusive de Tsuyark qui dure une vingtaine de minutes. Qui, moi, n'est pas totalement satisfaisante. C'est un peu dommage. Il y a des sujets sur lesquels j'aurais aimé le voir intervenir, mais ça reste quand même Tsuyark qui parle pendant 20 minutes, sous-titré. Et ça, c'est génial.
C'est quand même très rare.
C'est super.
Il faut en profiter. Bon, sur le film, qu'est-ce qu'on peut dire, Stéphane?
Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai vu le premier, j'ai vu le 3 donc maintenant puisqu'en fait on l'a regardé chez moi en 3D et j'ai pas vu le 2.
Ah.
Voilà, donc globalement je vais être assez honnête, mais bon c'est un peu toujours le cas avec Tsuyark, j'ai rien bité.
Ah.
Donc j'ai rien compris au film. Voilà, j'ai compris globalement ce qui se passait, mais
c'est hyper beau, mais j'ai rien compris.
Voilà. Non mais c'est surtout mais comme toujours avec Tsuyark, c'est quand dans les bons, vraiment pas quand tu te tapes Black Mass 2 où là c'est tu comprends rien et en plus le film est problématique quoi. C'est t'en prends plein la gueule en fait.
Dans les bons comme Piège à Hong Kong par exemple.
Ah, Piège à Hong Kong, déjà je comprends mieux le film. Voilà. Mais c'est parce que moi je m'identifie à Van Damme.
Et, c'est pour ça.
Voilà. Et c'est bon, alors voilà, le film est assez d'après ce que Julien m'a dit, c'est la suite de la préquelle, donc parce que le 2 était une préquelle, donc c'est la suite de Détective D2 direct, qui lui-même était une préquelle au premier Détective D qui était interprété par Andy Lau, et là c'est interprété par quelqu'un d'autre. Non, je n'ai plus le nom.
Voilà.
Merci de checker. Voilà. Et donc oui, alors le c'est un film qui est assez fou, assez formidable, et que je remercie Julien de m'avoir dit bon, eh bien on regarde ça en 3D chez toi, parce que effectivement, comme on l'avait déjà constaté avec la bataille de la montagne du tigre et ce genre de choses, en fait la 3D chez Tsuyark c'est vraiment quelque chose d'absolument formidable, parce qu'il est extrêmement expérimental. Et dans moi, ce que j'aime dans la 3D, c'est-à-dire que il y a quelques jaillissements et ce genre de choses, mais c'est pas ce qui est le plus flagrant en fait. Il y a notamment,
fait un peu plus que quelques-uns.
Mais ce qui est vraiment intéressant dans la construction de la mise en scène de Tsuyark, c'est pour ça qu'en fait quelque part j'ai rarement de soucis à suivre l'histoire et je peux lâcher prise sur ça tant qu'en fait il fait le reste. Et c'est vraiment, en fait, dans sa construction de mise en scène, c'est la façon dont il va jouer avec ces éléments-là. Par exemple, il y avait dans The Blade, j'ai la mémoire en fait d'un raccord, en fait, si tu veux, d'un foulard qui tombe au tout début du film, qui est une scène totalement anodine dans The Blade, et dont tu te souviens en fait juste parce que la façon dont il va raccorder au montage en fait les deux plans qui font tomber le foulard au sol te donne un sentiment en fait d'être la personne qui est censée recevoir ce foulard là. Et quand il joue avec ça, avec la 3D, c'est ça qui est assez formidable. Il y a notamment au tout début du film, c'est pareil, c'est un quelque chose de totalement anodin, où il va jouer en fait sur le rack focus, c'est-à-dire en fait en gros il va faire le point sur un plan en 3D couper au montage en fait et faire le plan suivant en fait où le point sera fait ailleurs et en fait c'est la 3D qui va compenser la profondeur de champ et c'est absolument incroyable en fait la façon dont ce que tu ressens en voyant ça en fait tout simplement même si encore une fois c'est des éléments de pur langage cinématographique auxquels moi je sais que je suis sensible je pense que Julien est sensible aussi mais c'est vraiment ces choses là il y a pareil une conversation faite à travers un rideau. C'est-à-dire, et toi, t'es de l'autre côté du rideau, mais avec la 3D, en fait, l'idée est complètement simple, hein, mais t'as vraiment l'impression d'être derrière un rideau et d'écouter, en fait, d'espionner une conversation.
Un rideau un peu translucide, c'est-à-dire que tu vois à travers le rideau. Oui. Du coup, tu as le rideau qui a certain plan, en fait, de profondeur, et t'as encore de la profondeur derrière. Oui. C'est-à-dire qu'il joue avec la transparence qui se fait très peu, en fait. Oui.
Voilà, et c'est tous ces éléments, en fait, avec lesquels il joue. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que tu le ressens, en fait, visuellement, que le film a été tourné aussi en 48 images secondes. Oui. Donc, tu vois qu'il y a quand même des pertes, t'as des plans qui t'as ces choses-là, c'est pas aussi flagrant que quand tu regardes par exemple Billy Lynn dont on avait parlé, d'Angli, où là vraiment en fait t'as une déperdition totale parce que tu passes de 120 images à 24. Là c'est pas aussi flagrant que ça, mais malgré tout tu le sens dans les maquillages, tu le sens dans la lumière en fait, tu le sens dans toutes ces choses-là et c'est d'autant plus dommage que quand justement en fait t'as cette compensation avec la 3D et que ça fonctionne, tu te dis putain j'aurais vraiment aimé voir le film jusqu'au bout en fait dans la façon dont il a été conçu, tourné par Tsui Hark, parce que je pense que c'est ce qu'on dit finalement assez rarement maintenant sur ce genre de choses-là, c'est que oui, en fait, on connaît tous le cinéma en 24 images secondes. Ça fait une centaine, enfin plus de 100 ans maintenant que c'est la norme, à peu près. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on est habitué à ce format-là, mais quand le film n'est pas tourné dans ce format-là, je pense que la déperdition, elle est évidente. Et mine de rien, on en parlait à la fin du film, quoi. Je pense qu'il y a une logique de futur là-dedans, en fait. C'est-à-dire que quand ça sera vraiment accepté, et je pense que ça sera malheureusement pas accepté par le cinéma, je pense que ça sera accepté par la télévision, par les matchs de foot, tout ce genre de choses, en fait, les gens comprendront que ça fonctionne, et en fait, et d'un seul coup, on comprendra pas pourquoi le cinéma, en fait, ne fonctionne pas.
N'est pas
à ce niveau-là. Et voilà. Après, le film en soi, c'est une folie. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait. Je sais que, hormis les Tsui Hark, il en a fait quand même quelques-uns en fait pour la Chine, hein, parce qu'il faut faire une distinction quand même. C'est quand même un réalisateur qui vient de Hong Kong à la base. Qu'il a fait des films pour la Chine. Il y a une grosse distinction entre les films festifs tels que Hero dans les années 2000, Le Secret des Poignards Volants, ce genre de choses en fait qui sont extrêmement poulets. Moi, je trouve extrêmement
même Monster Hunter pour prendre des choses plus récentes.
Qui sont vraiment qui sont des films en poulet. C'est des films qui certes encore une fois larguent le spectateur assez régulièrement, hein, comme c'est une habitude chez Tsui Hark, tu vois, mais qui en fait le rattrape en lui proposant des trucs que t'as jamais vu au cinéma, tout simplement. Enfin, des trucs complètement dingues. Il y a un combat final entre un singe géant totalement improbable et une espèce de Bouddha
c'est un monstre traditionnel chinois
avec des yeux avec plusieurs yeux en fait qui crachent les yeux sur le truc et qui deviennent en fait ces yeux là en fait explosent en gerbe de sang et de c'est complètement fou. Julien s'est exclamé mais qu'est-ce que je suis en train de voir en fait quand on était en train de regarder le film, quoi. T'as plein de moments comme ça complètement tarés. Des super personnages féminins, t'as notamment une nana, enfin à un moment donné le personnage de Judge Dee, il disparaît littéralement du film pendant 45 minutes facile, il y a un moment en fait, parce que c'est un film qui fait 2h15, donc à un moment donné le personnage disparaît complètement et au profit en fait de ce personnage féminin très fort qui fonctionne très bien, qui en même temps en fait a des fêlures, enfin voilà, donc il y a tout un tu retrouves en fait c'est l'essence de Tsui Hark, peut-être pas les meilleurs automatiquement, je sais pas comment dire, mais aujourd'hui en ce moment où le cinéma en fait est finalement assez sage, traditionnel, y compris dans des films en fait qui ont ces formes là, hein, qui sont censés présenter un spectacle, proposer un spectacle de malade, ça fait plaisir de voir ça, surtout qu'il a quand même 65 ans et que je pense qu'il est pas forcément encore une fois dans son élément quand il va faire des films pour la Chine. Donc, voilà.
Mais je peux peut-être rebondir là-dessus. En fait, ce qui est intéressant avec Dee, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec Dee. Moi, j'avais trouvé que le premier était pas un très bon. Enfin, c'était c'est pas que c'était pas un bon film. C'était un film plutôt agréable, mais c'était pas un film pour Twark. Twark, c'est pas un mec cartésien. Ce qui veut pas dire que c'est pas un mec cérébral. Hein. C'est un mec qui réfléchit énormément, peut-être trop même, qui est extrêmement brillant. On le sait tous, quoi. Qui est extrêmement cultivé, qui est curieux de tout. Et voilà. Mais le problème, c'est que le premier film, c'était vraiment dans la tradition des récits de Dee, c'est-à-dire que c'était une espèce Dee, ça reste une espèce de, comment dire, une espèce de Sherlock Holmes local, super brillant, quoi. Et du coup, bah, le premier restait dans ce cadre de, bah voilà, il y a un crime apparemment insoluble, comment on va le résoudre? Alors, il y avait quelques biais, il y avait de temps en temps des scènes dans le premier où tu disais, ah, il y a la folie déjà. Ouais. Je crois que le chorégraphe des combats sur le premier, c'était Sammo Hung, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, il y avait quelques chorégraphies de combat qui étaient vraiment sympas. Ouais. Et puis, il y avait deux, trois moments, un moment avec des biches et des cerfs, je me souviens, en CGI, qui était complètement taré, le combat final sur la statue et tout. Bon, il y avait des petits trucs comme ça, mais c'était pas un film pour Twark. Et ce qui est intéressant de Dee, c'est que d'une part, il a réussi dès le deuxième à attirer en fait cette franchise-là vers ce qu'il est lui. Hein. Et d'autre part, alors ça, c'est moi qui fais cette lecture-là, mais j'ai du mal à me dire que Twark, avec la duplicité qui est la sienne et qui est effective hein, depuis le truc, n'y a pas pensé, c'est que je n'arrive pas à me dire que à travers cette saga-là, il n'y a pas un discours de Twark vis-à-vis de son rapport, lui, au gouvernement chinois. C'est-à-dire, ce qui est génial de Dee, le cœur narratif, et j'aimerais même dire émotionnel peut-être du film, c'est le rapport de Dee à l'impératrice, qui était une impératrice super puissante, qui était la seule impératrice chinoise. C'est la seule fois qu'ils ont une dirigeante, je crois, en Chine. Et qui est à la fois quelqu'un que Twark admire et en même temps qu'il craint. Enfin, en tout cas, Dee. Et tout le truc de Dee, c'est que, comme c'est un personnage qui est très intelligent, d'une part, il est intelligent pour résoudre des crimes insolubles. Bon, alors ça, sur le 2 et le 3, c'est tout à fait différent parce qu'il résout plus le truc en combattant des monstres géants que par son intellect. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille sur la dictature, en fait, sous laquelle il... Enfin, c'est pas une dictature, c'est un empire, mais c'est sur laquelle il est par l'intelligence. Il dévie en fait les problématiques de l'impératrice. Et dans le 3, c'est poussé à son paroxysme, puisque l'impératrice, alors spoil, attention, petit spoil parce qu'on l'apprend vite, mais elle est possédée en fait. Oui. Donc elle agit encore plus mal qu'elle ne pouvait agir dans le deuxième film et dans le troisième. Et du coup, il y a une espèce d'éducation, comment dire, déviée en fait, de Dee par rapport au personnage, et avec toujours des petits trucs qui sont un peu subversifs, mais ajouté discrètement. Dans le 2, par exemple, bah, il y avait un moment où Dee arrivait à faire boire à tout un tas de gens très puissants de la cour de l'urine. Et puis là, dans le deuxième, il y a une scène assez improbable où l'impératrice arrive et puis commence à draguer Dee. Dans le 3, elle est en train de draguer Dee et tout, où à la fois le personnage est magnifique, reste magnifique, mais en même temps, bon, il y a un petit truc là qui est assez marrant. Donc ça, voilà, tout ça, c'est des grandes qualités. Le truc, c'est que moi, j'ai l'impression quand même, malgré tout, que d'une part, j'ai pas vu le film comme il aurait fallu. C'est-à-dire que c'est un film clairement à voir en IMAX aussi. C'est un film tourné aussi en IMAX.
En fait, il faut aller voir en Chine. Il faut aller en Chine pour les voir.
C'est un film tourné aussi en haute fréquence. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, il y a des plans d'effets spéciaux qui sont un peu limites. Et en fait, à la réflexion, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a des animations, par exemple, qui sont super bizarres, notamment l'animation du singe. Et je me suis dit, mais ça se trouve, cette animation-là, je la percevrais pas du tout de la même façon si je la voyais en haute fréquence. Parce qu'il se trouve qu'en haute fréquence, comme les films sont à 48 images par seconde, parfois, les personnages numériques, ils les animent en 24 images par seconde, les mecs des effets spéciaux, parce que c'est quand même moins de boulot. Des fois, ils les animent en moins. Et puis, des fois, ils poussent jusqu'à 48 images par seconde. 48, ouais. Donc, je sais pas si ce personnage-là a été... je sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une...
Ça reste une constante, les effets spéciaux problématiques chez Tsui Hark. Hein.
Parce que c'est jamais une finalité. Ils sont fous. On n'est pas chez Marvel qui essaie de tout polisser et tout. Lui, c'est l'idée... disons que l'envie et l'idée priment toujours sur le résultat final. Mais c'était déjà dans Swordsman 2, dans tellement de ces productions, de ces réalisations auparavant, quoi. Et là, il y a une folie. Enfin, j'ai du mal à me dire par exemple, on parle beaucoup de films comics aujourd'hui, mais moi, j'ai du mal à me dire qu'on peut aimer le comics et ne pas aimer un film comme ça. Oui. Parce qu'il y a une folie, une générosité, un délire dans l'action, et en même temps extrêmement clair, etc., qui pour moi, il y a des parenthés, comme il y a des parenthés aussi avec le jeu vidéo. Enfin, Stéphane parlait beaucoup de jeux vidéo, en fait, quand on voyait le film et tout, mais oui, je veux dire, le film, et là, c'est un film, c'est aussi ce qui fait un film de son temps, c'est-à-dire qu'il y a un truc dans l'imaginaire débridé, en fait, de ce film, dans sa générosité, dans le côté chatoyant et tout, qui fait que, voilà, on n'a pas le... Enfin, voilà, c'est extrêmement satisfaisant de ce côté-là. Je voulais juste dire un petit truc pour terminer. Dis-le. Je veux quand même prévenir les gens qui ont vu le 2 que c'est un petit peu moins bien. C'est un peu moins bien rythmé. Non, mais voilà. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu moins d'argent. Et puis, il y avait un truc aussi dans le 2, c'est qu'il y avait Angela Baby, qui est très jolie, mais qui en plus avait une histoire. Il y avait une histoire d'amour monstrueux, etc., qui était hyper touchante. Le film n'arrive pas à compenser, en fait, ça, même si effectivement, il y a ces deux personnages féminins magnifiques qui est l'impératrice, puis une espèce de guerrière.
Mais préciser que c'est Marc Chao qui joue Dia, parce qu'il faut
on a retrouvé la référence qui nous manquait.
Et toujours Kenji Kawai, il y a la musique.
Bien sûr, et je vais repréciser aussi que Détective Did 3, La Légende des Rois Célestes, c'est donc disponible en Blu-ray chez l'Arabia et distribué par M6 Vidéo. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, Binge pour audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.